Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Chers amis auditeurs, bonjour. Heureux de nous retrouver dans notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons cette émission sur la lettre du pape Jean-Paul II, le rosaire de la Vierge Marie, Rosarium Virginis Mariae. En ce mois d'octobre, ce mois dédié à la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, eh bien, il est bon pour nous de nous recentrer sur ce que signifie cette prière du rosaire. Et voilà, pour cela, je vous propose de reprendre cette lettre du pape Jean-Paul II, donnée le 16 octobre 2002, dans l'année du rosaire. Donc nous avons vu la dernière fois, donc dans les dernières émissions, le premier chapitre de cette lettre qui consiste à recentrer le mystère du rosaire, en fait, la prière du rosaire sur cet intermédiaire de la Vierge Marie, Marie qui nous conduit à son Fils, contempler le Christ avec Marie. Donc c'est tout le rôle aussi de l'éducation maternelle de Marie de nous conduire à son Fils, nous l'avons vu largement dans les dernières émissions. Nous allons entrer aujourd'hui dans le deuxième chapitre, mystère du Christ, mystère de sa mère. Rappelons donc que cette lettre du pape Jean-Paul II est une lettre, une exhortation apostolique. Donc voilà, c'est une lettre courte qui fait seulement trois chapitres, chaque chapitre est divisé en six ou sept articles. Et donc nous allons entrer maintenant au cœur de cette lettre à travers ce deuxième chapitre, mystère du Christ, mystère de sa mère. Comme nous l'avons déjà vu, le rosaire est comme le résumé de l'évangile. C'est aussi ce que disait le saint Padre Pio. Il disait que le rosaire, c'était l'évangile en raccourci. Tout à fait. Et c'est vrai que nous avons vu que, bien à travers les mystères du rosaire, nous pouvons entrer dans le message profond de l'évangile. Évangile qui veut dire bonne parole. C'est la bonne parole de la victoire du Christ qui nous est donnée à travers tous ces événements que l'on médite mystère après mystère dans le rosaire. Pour être introduit dans la contemplation du visage du Christ, il faut écouter dans l'esprit la voix du Père, car nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Près de Césarée de Philippe, à l'occasion de la profession de foi de Pierre, Jésus précisera l'origine de cette intuition si lumineuse concernant son identité. Ce n'est pas la chair et le sang, dit-il, qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. La révélation d'en haut est donc nécessaire. Mais pour l'accueillir, il est indispensable de se mettre à l'écoute. La première qualité du croyant, de celui qui veut cheminer avec le Christ, eh bien, c'est celle de l'écoute. Seule l'expérience du silence et de la prière offre le cadre approprié dans lequel la connaissance la plus vraie, la plus fidèle et la plus cohérente de ce mystère peut mûrir et se développer. Déjà, le pape Jean-Paul II, dans une autre lettre, était revenu en 2001 sur la lettre du Grand Jubilé, Nuovo Millennium Iniunte, sur cette affirmation. Seule l'expérience du silence et de la prière offre le cadre approprié dans lequel la connaissance la plus vraie, la plus fidèle et la plus cohérente de ce mystère peut mûrir et se développer. Nous avons besoin, autrement dit, de créer un climat favorable à l'écoute. Et donc de faire silence, un silence extérieur, mais bien sûr un silence intérieur. Le rosaire est l'un des parcours traditionnels de la prière chrétienne, qui s'attache à la contemplation du visage du Christ. Et par sa dimension aussi contemplative, il nous entraîne aussi à cultiver ce silence intérieur. Alors ça pourrait paraître contradictoire, puisque c'est constitué de prières vocales. Mais surtout, le mystère du rosaire, eh bien, nous invite voilà, à nous disposer au niveau spirituel, au niveau de notre esprit, au niveau de tout ce qui peut-être nous encombre dans notre esprit, à faire silence, à faire place donc à l'écoute de quelqu'un d'autre qui se révèle à moi, hein, d'un autre message que je dois recevoir. Le pape Paul VI décrivait ainsi, la prière du rosaire comme une prière évangélique centrée sur le mystère de l'incarnation, rédemption et glorification. Le rosaire est donc une orientation nettement christologique. En effet, son élément le plus caractéristique, la répétition litanique de l'Ave Maria, devient lui aussi une louange incessante du Christ, objet ultime de l'annonce de l'ange et de la salutation de la mère du Baptiste. Le fruit de tes entrailles est béni. On objecte souvent la prière du rosaire comme étant une prière répétitive, comme presque un rabâchage. Et on l'oppose à cette parole de Jésus. Ne rabâchez pas comme les païens, ce n'est pas à force de rabâchage que vous serez exaucés. Or, ce que nous dit le pape Paul VI montre bien que cette prière n'est pas seulement un rabâchage. C'est pas parce qu'il y a une forme répétitive que c'est du rabâchage, au contraire. Il nous dit donc que cet élément plus caractéristique, donc la répétition litanique de l'Ave Maria, devient lui aussi une louange incessante au Christ. Objet ultime de l'annonce de l'ange et de la salutation de la mère du Baptiste, donc Élisabeth. Le fruit de tes entrailles est béni. Nous dirons même plus. La répétition de chaque Ave Maria constitue la trame sur laquelle se développe la contemplation des mystères. Le Jésus de chaque Ave Maria est celui même que la succession des mystères nous propose tour à tour, Fils de Dieu et de la Vierge. Donc il ne s'agit pas pour nous d'une prière seulement répétitive, mais ça s'inscrit dans cette démarche de la prière chrétienne qui est ce qu'on appelle la prière du cœur. Et le fait de répéter cette salutation angélique, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », et nous rappelle aussi l'accueil du mystère du salut. « Comment m'est-il donné que la mère du Seigneur vienne jusqu'à moi ? Le fruit de tes entrailles est béni », cette deuxième partie du chapelet. Et donc cette salutation d'Élisabeth qui voit son enfant tressaillir d'allégresse et à travers ce signe reconnaît la mère du Seigneur qui vient à elle. Donc l'accueil du mystère du salut. À la fois l'annonce par la première partie du « Je vous salue Marie » et l'accueil du mystère du salut. Et en fait, c'est toute notre démarche, nous aussi. Et nous avons aussi à nous faire apôtres, c'est-à-dire annonciateurs de ce mystère. Parmi donc tous les événements de la vie du Christ, le rosaire, tel qu'il s'est forgé dans la pratique la plus courante approuvée par l'autorité ecclésiale, n'en retient que quelques-uns. Bien sûr qu'on a l'essentiel des événements de la vie du Christ, mais nous n'avons pas tout. Par exemple, nous n'avons pas dans la vie publique de Jésus la multiplication des pains, par exemple, ou Jésus qui marche sur les eaux. Il y a bien d'autres passages évangéliques, évidemment, qui ne sont pas des mystères du rosaire, mais ceux qui ont été donc retenus sont les plus essentiels pour nous et marquent des étapes essentielles justement à la fois de l'annonce du salut et de l'accueil du mystère du salut. Ce choix s'est imposé à cause de la trame originaire de cette prière qui s'organisa à partir du nombre 150, donc les 150 psaumes, que récitaient traditionnellement aussi tous les moines dans tous les ordres religieux quels qu'ils soient, et puis donc particulièrement cette pratique qui est venue donc des dominicains, des frères converts dominicains, donc ceux qui ne sont pas clercs, qui ne sont pas ordonnés prêtres ou diacres, qui n'étaient pas donc tenus à la récitation des psaumes, ils ont remplacé ces psaumes par eh bien, ces Ave Maria divisées donc en dizaines. Afin de donner une consistance nettement plus christologique au rosaire, il me semble toutefois qu'un ajout serait opportun. Alors là, c'est la touche propre de Jean-Paul II qui a ajouté à ses 150 Ave Maria, eh bien, les mystères lumineux, donc 50 en plus, qui constituent les mystères de la vie publique de Jésus. Alors on va entendre ce que nous dit le pape Jean-Paul II, pourquoi il a voulu instituer ces mystères lumineux, ajouter ces mystères lumineux déjà à ces 150 Ave Maria qui correspondaient à quelque chose, puisque ça correspondait aux 150 psaumes. Donc on pourrait dire que c'est quand même comme déformer l'intention primaire de cet instrument de prière qu'est le chapelet, puisqu'il va rajouter 50 Ave Maria qui ne correspondent pas à 50 psaumes en plus. Parce qu'on n'en a que 150, on n'en a pas 200. Donc le pape Jean-Paul II nous dit, « Afin de donner donc une consistance plus christologique au rosaire, il me semble toutefois qu'un ajout serait opportun, tout en le laissant à la libre appréciation des personnes et des communautés. Cela pourrait permettre de prendre en compte également les mystères de la vie publique du Christ, entre le baptême et la passion. Car c'est dans l'espace de ces mystères que nous contemplons des aspects importants de la personne du Christ en tant que révélateur définitif de Dieu. Proclamé fils bien-aimé du Père lors du baptême dans le Jourdain, il est celui qui annonce la venue du royaume en témoignant par ses œuvres, en proclamant aussi l'exigence de la vie évangélique et des mystères du royaume. C'est tout au long des années de sa vie publique que le mystère du Christ se révèle à un titre spécial, comme mystère de lumière. Tant que je suis dans le monde, dit Jésus dans l'évangile de Jean, je suis la lumière du monde. Pour que l'on puisse dire de manière complète que le rosaire est un résumé de l'Évangile, il convient donc, après avoir rappelé l'incarnation et la vie cachée du Christ, donc les mystères joyeux, et avant de s'arrêter sur les souffrances de la Passion, mystère douloureux, puis sur le triomphe de la résurrection, mystère glorieux, la méditation se tourne aussi vers quelques moments particuliers et particulièrement significatifs de la vie publique de Jésus, les mystères lumineux. Cet ajout de nouveaux mystères, sans léser aucun aspect essentiel de l'assise traditionnelle de cette prière, a pour but de la placer dans la spiritualité chrétienne avec une attention renouvelée, comme une authentique introduction aux profondeurs du cœur du Christ, abîme de joie et de lumière, de douleur et de gloire. Alors, on pourrait dire, ben voilà, pourquoi nous avons attendu autant? Mais voilà, ça fait partie du mystère de Dieu, justement. Et puis, voilà, c'était peut-être parce que cette initiative devait venir du pape, peut-être un des papes les plus mariales que l'on a eu dans l'histoire, Jean-Paul II. Et en tout cas, c'est important pour nous. Pourquoi? Parce que bien, ça nous recentre aussi sur... voilà, sur cet instrument du chapelet comme étant un raccourci de l'évangile, c'est-à-dire de tous les éléments essentiels de l'annonce du Christ dans sa vie publique, depuis son incarnation jusqu'à son ascension au ciel. Et bien sûr, dans la vie publique, c'est là où il va rencontrer la réalité de nos vies. Et donc ça commence par son baptême, la première rencontre de Jésus avec le peuple de Dieu. Et puis ensuite, nous avons les noces de Cana, la première manifestation de Jésus au monde, la manifestation de sa puissance, de sa gloire, comme dit saint Jean. Là, il manifesta sa gloire dans ses repas de noces. L'annonce des mystères du royaume des cieux. Le royaume des cieux est comparable à une femme qui a enfoui du levain dans une masse de farine, un filet qui ramasse toutes sortes de poissons, etc. Que ça, toutes les grandes paraboles de Jésus sur le mystère du royaume des cieux. Ensuite, l'autre événement, déjà, on pourrait dire presque de gloire anticipée, la transfiguration. Et enfin, l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est quand même le mystère aussi central de toute la vie et de toute la mission de rédemption du Christ, puisque l'Eucharistie nous renvoie à la fois donc à l'incarnation, ceci est mon corps, ma chair, livrée pour vous, mon sang versé pour vous, et puis le mystère de la rédemption, puisque ce corps, eh bien, il est livré, ce sang, il est versé pour nous, donc le mystère de la croix. Donc voilà, l'Eucharistie, bien évidemment, a vraiment toute sa place. Alors nous allons voir maintenant, le pape Jean-Paul II nous propose une petite méditation sur chacun des mystères du rosaire. Les mystères, en parlant des mystères, partant des mystères joyeux jusqu'aux mystères glorieux. Le premier cycle, celui des mystères joyeux, est effectivement caractérisé par la joie qui rayonne de l'événement de l'incarnation. Voici que je vous annonce une grande joie, diront les anges. Cela est évident dès l'Annonciation, où le salut de l'ange Gabriel à la Vierge Marie rappelle l'invitation à la joie messianique. Réjouis-toi, Marie. Toute l'histoire du salut, bien plus en un sens, l'histoire même du monde, aboutit à cette annonce. En effet, si le dessein du Père est de récapituler toutes choses dans le Christ, c'est l'univers entier qui, d'une certaine manière, est touché par la faveur divine avec laquelle le Père se penche sur Marie. Dans cette joie, bien sûr, il y a la note d'exultation. L'exultation qui marque la scène aussi de la rencontre de Marie avec sa cousine Élisabeth, où la voix de Marie et la présence du Christ en son sein font que Jean tressaille d'allégresse. Et puis, bien sûr, la naissance de Jésus à Bethléem, où règne une atmosphère là aussi de joie. Et même s'il y a un contexte de pauvreté, c'est quand même la joie qui l'emporte, évidemment, la joie de mettre au monde un fils déjà et de mettre au monde le Fils de Dieu. Donc le pape Jean-Paul II nous dit que c'est une atmosphère de liesse qui baigne la scène de Bethléem où la naissance de l'enfant, le sauveur du monde, est chantée par les anges et annoncée aux bergers justement comme une grande joie. Et puis enfin, les deux derniers mystères du joyeux qui conservent toutefois aussi une note de joie même si ils marquent aussi une certaine épreuve. Anticipation des signes du drame. En effet, la présentation de Jésus au temple, tout en exprimant la joie de la consécration, Marie qui offre son enfant au Père, en plongeant aussi le vieillard Siméon dans l'extase, lui aussi, qui souligne aussi la prophétie du signe en but à la contradiction. Et donc, malgré ces moments de joie, il y a aussi déjà la perspective de la souffrance qui apparaît. L'enfant sera donc un signe de contradiction et une épée te transpercera l'âme, dit donc le prophète Siméon à Marie. Enfin, l'épisode de Jésus retrouvé au temple lorsqu'il eut 12 ans est aussi tout à la fois joyeux et dramatique. Il se dévoile là dans sa divine sagesse tandis qu'il écoute et interroge. Et il se présente essentiellement comme celui qui enseigne. La révélation de son mystère de fils tout entier consacré aux choses du Père est une annonce de la radicalité évangélique qui remet en cause les liens même les plus chers à l'homme face aux exigences absolues du royaume. Joseph et Marie eux-mêmes, émus et angoissés, ne comprirent pas ces paroles. Donc tous ces mystères joyeux veulent nous aider aussi à entrer dans les motivations ultimes et de la satisfaction profonde de la joie chrétienne. La joie chrétienne, c'est cette joie d'accueillir ce mystère de Dieu qui vient à nous. Donc c'est vraiment une joie liée à l'accueil. Ensuite, nous retrouvons donc ce qu'on a dit tout à l'heure, l'apport de Jean-Paul II à partir de cette lettre, les mystères lumineux. Passant de l'enfance de Jésus et de la vie à Nazareth à sa vie publique, nous sommes amenés à contempler ces mystères que on peut appeler à titre spécial mystères lumineux. En réalité, c'est tout le mystère du Christ qui est lumière. Je suis la lumière du monde. Mais cette dimension est particulièrement visible durant les années de sa vie publique lorsqu'on annonce l'évangile du royaume, si l'on veut indiquer à la communauté chrétienne cinq moments significatifs des mystères lumineux de cette période de la vie du Christ. Il me semble que l'on peut mettre ainsi en évidence, premièrement, le moment de son baptême au Jourdain, deuxièmement, dans son auto-révélation aux noces de Cana, troisièmement, dans l'annonce du royaume de Dieu avec l'invitation à la conversion, quatrièmement, dans sa transfiguration, et cinquièmement, enfin, dans l'institution de l'Eucharistie, expression sacramentelle des mystères pascals. Le baptême au Jourdain est avant tout un mystère de lumière. En ce sens, il est aussi ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. En ce lieu, alors que le Christ descend dans les eaux du fleuve comme l'innocent qui se fait pécher pour nous, les cieux s'ouvrent. La voix du Père le proclame son Fils bien-aimé, tandis que l'Esprit descend sur lui pour l'investir de la mission qui l'attend. Le début des signes à Cana est un mystère de lumière au moment où le Christ, changeant l'eau en vin, ouvre le cœur des disciples à la fois à la grâce et à l'intervention de Marie, la première des croyantes. C'est aussi un mystère de lumière que la prédication par laquelle Jésus annonce l'avènement du royaume de Dieu et invite à la conversion, remettant les péchés de ceux qui s'approchent de lui avec une foi humble. Ce mystère de miséricorde qu'il a commencé, il le poursuivra jusqu'à la fin des temps, particulièrement à travers le sacrement de la réconciliation confié à son Église. La transfiguration, quant à elle, est le mystère de lumière par excellence. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Selon la tradition, elle survint sur le mont Tabor. La gloire de la divinité resplendit sur le visage du Christ, tandis que aux apôtres, en extase, le Père le donne à reconnaître pour qu'il l'écoute et qu'il se prépare à vivre avec lui le moment douloureux de la passion, afin de parvenir avec lui à la joie de la résurrection et à une vie transfigurée par l'Esprit Saint. Enfin, c'est un mystère de lumière que constitue aussi l'institution de l'Eucharistie dans laquelle le Christ se fait nourriture par son corps et son sang sous le signe du pain et du vin, donnant jusqu'au bout le témoignage de son amour pour l'humanité, pour le salut de laquelle il s'offrira en sacrifice. Dans ces mystères, à l'exception de Cana, Marie est présente, et elle n'est présente d'une manière cachée, mais réellement présente. À part à Cana, évidemment, où elle a une place particulière. Les évangiles ne font que quelques brèves allusions à sa présence occasionnelle à un moment ou à un autre de la prédication de Jésus. Ils ne disent rien à propos de son éventuelle présence au Cénacle au moment de l'institution de l'Eucharistie. Mais la fonction qu'elle remplit à Cana accompagne, d'une certaine manière, tout le parcours du Christ. La révélation qui, au moment du baptême, au Jourdain, est donnée directement par le Père et dont le Baptiste se fait l'écho, est sur ses lèvres à Cana, et demain la grande recommandation que la Mère adresse à l'Église de tous les temps. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est une recommandation qui nous fait entrer dans les paroles et dans les signes du Christ durant sa vie publique, constituant le fond marial de tous les mystères de lumière. Les mystères douloureux quant à eux. Les évangiles donnent une grande importance, évidemment, bien sûr, au mystère de la passion du Christ. depuis toujours la piété chrétienne, spécialement pendant le carême, à travers la pratique du chemin de croix, s'est arrêtée sur chaque moment de la passion, comprenant que là se trouve aussi le point culminant, le point central de la révélation de l'amour, et que là aussi se trouve la source de notre salut. Le rosaire choisit certains moments de la passion, incitant la personne qui prie à les fixer avec le regard du cœur et à les revivre. Le parcours de la méditation s'ouvre sur Gethsémani, où le Christ vit un moment particulièrement angoissant, confronté à la volonté du Père face à laquelle la faiblesse de la chair serait tentée de se rebeller. À ce moment-là, le Christ se tient dans le lieu de toutes les tentations de l'humanité face à tous les péchés de l'humanité pour dire au Père que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Et le Christ, par son obéissance, par son oui, efface le non de nos premiers parents au jardin d'Éden. Et ce qu'il doit lui en coûter d'adhérer à la volonté du Père apparaît dans les mystères suivants, la flagellation, le couronnement d'épines, la montée au calvaire, la mort en croix, par lesquels il est plongé dans la plus grande abjection, Ecce homo, voici l'homme. C'est ici que se révèle non seulement l'amour de Dieu, mais le sens même de l'homme, Ecce homo, voici l'homme. Qui veut connaître l'homme doit savoir en reconnaître le sens, l'origine et l'accomplissement dans le Christ, Dieu qui s'abaisse par amour jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Les mystères douloureux conduisent le croyant à revivre la mort de Jésus en se mettant au pied de la croix, près de Marie, pour pénétrer avec elle dans la profondeur de l'amour de Dieu pour l'homme et en ressentir aussi toute la force régénératrice. Enfin, les mystères glorieux. La contemplation du visage du Christ ne peut s'arrêter à son image de crucifié, car il est ressuscité. Depuis toujours, le rosaire exprime cette conscience de la foi, invitant le croyant à aller au-delà de l'obscurité de la passion pour fixer son regard sur la victoire, sur la gloire du Christ, dans la résurrection et dans l'ascension. Parce que le but n'est pas seulement de donner sa vie, c'est de donner sa vie pour que nous ayons la vie, la vraie vie, la vie éternelle. En contemplant le ressuscité, le chrétien redécouvre les raisons de sa propre foi. Il revit la joie non seulement de ceux à qui le Christ s'est manifesté, les apôtres, Marie-Madeleine, les disciples d'Emmaüs, etc., mais aussi la joie de Marie, qui a dû faire une expérience non moins intense de la vie nouvelle de son Fils glorifié. À cette gloire qui, par l'ascension, place le Christ à la droite du Père, elle sera d'elle-même associée à l'Assomption, anticipant par un privilège très spécial la destinée réservée à tous les justes par la résurrection de la chair. Dans ces deux derniers mystères, qui concerne Marie, son assomption et son élévation comme reine du ciel, eh bien, nous montre aussi que notre humanité est appelée à la gloire aussi dans notre propre corps. Nous sommes appelés aussi à rayonner la gloire de Dieu par le mystère de la résurrection de la chair et aussi de siéger à la place que le Seigneur nous a préparée au ciel. Et puis, bien sûr, la Pentecôte, c'est le lieu central où Marie accompagne le mystère de l'Église. Elle est celle qui montre le visage de l'Église comme aussi famille unie, ravivée par l'effusion puissante de l'Esprit-Saint et prête pour la mission d'évangélisation. Alors, voilà, bien, nous pouvons, à la lumière de tous ces mystères, nous recentrer sur le mystère central du Christ avec Marie. Et je vous souhaite à tous alors de redécouvrir la profondeur de cette prière et voilà de la mettre vraiment au cœur de notre vie quotidienne. À tous, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour continuer aussi notre émission Eschatologie et prophétie sur les mystères du rosaire de la Vierge Marie.
Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.